Goma. Nous allons commencer par Goma. Nous allons prendre trois questions de Goma.
Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Kenny Katombe de l'agence Reuters. Ma question a deux volets. Le 10 juin, les Nations Unies ont fait part de leurs préoccupations sur la sécurité des 53 enfants qui risquent, selon les communiqués, d'être repris par le M23. Ces enfants, où sont-ils en ce moment? Que comptent faire les Nations Unies pour la sécurité de ces enfants? Et aussi, allons-nous continuer à recevoir des communiqués de préoccupation sans pour autant qu'on sache quel est le mécanisme que met en place les Nations Unies pour faire que ces enfants qui, en réalité, doivent être à l'école pour leur éducation, ne soient pas à la merci de ces forces négatives. Et de deux, la ville de Goma, depuis quelque temps, fait l'objet d'arrestations arbitraires. La MONUSCO, qui est là pour la stabilité, que fait-elle ou quelle est sa collaboration avec les pouvoirs judiciaires pour éviter que l'on ne vive pas ce type de scénario, alors que le Congo se dit un pays démocratique? Merci.
Oui, RFI là-bas, rapidement, passez-lui le micro devant vous.
Bonjour, Stéphanie Aguiletti, RFI AFP. Ma question concerne donc le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO et notamment la question des drones qui doivent être aussi déployés. Alors, je veux savoir où est-ce qu'on en était, s'il y avait aussi un calendrier et également savoir ce qu'il en était des informations qui vont être récoltées par ces drones et qui va avoir accès à ces informations. C'est une question qui est assez récurrente. Merci.
Répétez la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce qu'on va quoi? La deuxième partie de la question.
C'est alors qui aura accès à ces informations récoltées par les drones.
Ok, bon,
elles
merci.
Vont être traitées.
Merci.
Oui, merci Aline Ngwetok, Congo FM. Nous constatons qu'en plus de l'unité indienne, pakistanais et irogoyenne de la MONUSCO, en plus de la police nationale congolaise et du 41e bataillon commando des FARDC, le bataillon tanzanien d'intervention commence aussi à patrouiller dans les artères principales de la ville de Goma. La question est de savoir pourquoi, en attendant d'avoir tous ces moyens offensifs, la brigade ne pourrait-elle pas sécuriser, par exemple, la route de Masisi où les bandes armées font la loi? Deuxième question, il y a eu plusieurs sensibilisations avant la création de la brigade d'intervention, la société civile, la communauté, les institutions, pour ne citer que cela. Mais le violon sexuel se poursuit toujours au Nord Kivu. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous garantir le succès de la sensibilisation annoncée avant les opérations de la brigade? Merci.
Ok, merci beaucoup. On commence par la première question de Reuters concernant les 70 enfants. Je pense que pour vous qui êtes à Goma, il vous serait très facile de vérifier et de voir comment ces enfants récupérés des groupes armés sont pris en charge. Il y a des structures là-bas sur place à Goma qui le font. Maintenant, vous savez, lorsqu'on traite de ce sujet concernant ces enfants, il y a aussi une question de sécurité. Nous vous disons que ce sont des enfants qui sont entre les mains des groupes armés que nous cherchons à protéger. Donc il n'est pas question pour nous ici d'étaler publiquement ce que nous faisons. Nous vous donnons les résultats de ce travail et il faut que ça se fasse d'une façon où les enfants sont protégés et pris en charge. Pris en charge, oui, ça se fait. Et je pense qu'à Goma là-bas, vous pouvez visiter ces structures ou ces familles qui prennent en charge ces enfants. Concernant les arrestations arbitraires, nous avons, comme vous l'avez dit, une section, une division même des droits de l'homme qui travaille avec les autorités nationales et locales. Et lorsque nous sommes au courant de ces informations, bien entendu, nous les vérifions. Le calendrier des drones, je laisse ça au colonel, ainsi que la question concernant l'accès à l'information. Patrouille sur la route de Masisi, je laisse ça aussi au colonel. Concernant les violences sexuelles, vous voulez savoir Est-ce qu'on peut garantir si ces violences sexuelles vont prendre fin ou pas? Vous savez, nous sommes dans un processus. Vous parlez de violences sexuelles aujourd'hui, mais il n'y a pas que des violences sexuelles. Il y a aussi, comme l'a dit, l'a relevé le journaliste de Reuters, ces questions d'abus et d'atteinte aux droits de l'homme ou d'atteinte à l'intégrité physique de certaines personnes. Et toutes ces questions sont à traiter d'une façon globale. Donc, ça prend du temps. Nous travaillons avec les ONG, nous travaillons avec les institutions du pays. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça demande la coopération de tout le monde pour arriver à un résultat positif. Mon colonel.
Oui, merci donc pour la question de RFI concernant le déploiement de la brigade d'intervention. Je pense que vous avez reçu l'information selon laquelle aujourd'hui près de la moitié des effectifs devant entrer dans la composition de cette force sont déjà déployés à Goma avec les moyens y afférents. Maintenant, concernant le déploiement des drones, l'appel d'offres a été lancé au niveau des Nations Unies. Certaines sociétés ont été sélectionnées. Et en attendant que le choix soit définitivement porté sur un des candidats, je peux vous dire que le processus poursuit son chemin dans un premier temps, mais que d'ici très bientôt, nous aurons des informations beaucoup plus fiables à mettre à votre disposition. Mais les drones seront déployés très bientôt pour venir compléter le travail que les troupes feront sur le terrain. Maintenant, qui va avoir accès à ces informations? Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des moyens mis à la disposition de la force, des moyens additionnels mis à la disposition de la force pour donner un peu plus de flexibilité au commandant de la force qui pourra, une fois que les informations lui seront parvenues, prendre les décisions stratégiques ou tactiques qui s'imposent pour essayer de prévenir justement un mouvement de troupes, un mouvement de matériel ou même une circulation d'armes le long de la frange frontalière qui sépare aussi la RDC du Rwanda mais aussi la RDC de l'Ouganda. Et vous savez que ces drones, une fois mis en place, bien sûr ce sont des avions sans pilote, mais n'oubliez pas qu'à terre vous avez des gens qui vont être chargés d'abord de piloter, apparemment deux personnes. Un qui sera chargé de piloter cet aéronef et un autre qui sera chargé de la collecte et du traitement des informations qui vont être recueillies par ces drones qui seront mis sur orbite. Toujours est-il que ces informations ne seront pas accessibles à tout le monde. C'est des informations qui vont aller au niveau de l'état-major de la force, mis à la disposition du commandant de la force pour qu'il puisse prendre toutes les décisions idoines afin de prévenir justement les activités négatives des groupes armés.
Voilà, nous revenons maintenant à Kinshasa. Nous commençons sur la gauche par le fond et nous allons progresser vers ici.
Patrick Manga pour l'expression. Je pose mes questions au colonel. Est-ce que le colonel pourrait nous donner des éclaircissements à ce qui se passe sur Lac Albert, parce que vous menez quand même des patrouilles aussi au niveau de l'Ituri, parce que maintenant on enregistre quelques cas de décès au niveau de Lac Albert. Il semblerait qu'il y a des morts au niveau de plaine de Lac Albert. On avait arrêté deux morts et d'autres radios, ils ont fait allusion à cela. Quelle est la situation sécuritaire qui se passe au niveau de Lac Albert? Et la deuxième question, vous parlez de la sécurité optimale, au niveau du Nord Kivu. Pourquoi on enregistre beaucoup de cas de nouveau de déplacés de guerre? Est-ce que c'est d'autres nouveaux mouvements de guerre qui sont pas encore qui n'ont pas encore dit leur nom, qui sont là, ou bien c'est toujours les M23 qui sèment beaucoup de terrain?
Prends une deuxième question, derrière, contre le mur.
Alain Ouzi pour Sangomalamu Télévision. Monsieur le porte-parole, je voudrais intervenir sur la nomination de Martin Kobler. Pourquoi cette nomination intervient en ce moment où la brigade d'intervention est en train d'être déployée, mais aussi quelles sont les missions spécifiques assignées à ce nouveau représentant spécial des Nations Unies en RDC. La deuxième préoccupation, c'est comment réagissez-vous aux propos du président tanzanien dont le pays est un grand contributeur de troupes pour la force d'intervention, qui a déclaré que pour une paix durable, il faudrait que le Rwanda négocie avec le FDLR et que l'Ouganda avec la DEFNALU. Merci.
Prenons devant.
Merci, c'est Médard Mbolela pour le compte de Winners Media. J'aimerais beaucoup plus m'atteler sur l'action humanitaire. On sait aujourd'hui que l'Angola est en train d'expulser un bon nombre de Congolais sur son territoire. J'aimerais savoir si la branche humanitaire de la MONUSCO est en train de suivre de près cette situation et obligé de nous donner un peu des explications sur la situation de ces gens qui sont expulsés en Angola et obligé les conditions dans lesquelles ils vivent. La deuxième préoccupation serait sécuritaire par rapport à la brigade d'intervention qui a déjà une moitié de son effectif sur le sol congolais. Si on doit attendre que l'effectif soit complet ou au besoin, on peut nous donner progressivement le rapport sur l'action que cette brigade est en train de mener à l'est de la République démocratique du Congo. Merci.
Ok, merci beaucoup. Nous allons commencer par l'humanitaire. Ocha, concernant les expulsés d'Angola.
Oui, effectivement, nous avons reçu ces dernières semaines des informations faisant état d'expulsion de Congolais vivant en Angola, notamment dans la partie frontalière en RDC. C'est pas un phénomène nouveau, comme vous le savez, ça fait plusieurs années que cela se répète. Selon les informations que nous avons, il semble que ce sont des Congolais qui vivent en situation irrégulière en Angola et que les autorités angolaises disons veulent mettre un peu d'ordre parmi cette population là. Effectivement, ces expulsions selon les informations que nous avons font état de certains abus en termes de droits de l'homme, certains mauvais traitements dans le refoulement. Ces informations que nous devons d'abord vérifier, à prendre pour l'instant avec certaines pincettes jusqu'à ce qu'on puisse vérifier, mais ce sont des familles entières qui sont souvent refoulées vers le Congo et qui reviennent évidemment totalement démunies. Donc il y a certaines ONG, évidemment un certain nombre d'agences des Nations Unies qui sont dans les provinces frontalières où se passent ces refoulements, qui essaient d'apporter un premier appui en termes de soins, en termes d'eau, en termes de vivres, parce qu'effectivement ces refoulements se font sur plusieurs jours et dans des conditions assez difficiles.
Merci. Mon colonel, vous avez une question concernant la situation sur le lac Albert et aussi concernant un rapport progressif sur les activités de la brigade d'intervention.
Je ne l'ai pas entendu. Dans la mesure où j'étais en train de répondre à la troisième question de Goma, le micro a été pris.
Okay.
Si vous permettez, avant de répondre à la deuxième question de Kinshasa, parce que la première je ne l'ai pas entendue, je voudrais quand même donner une réponse à madame qui est peut-être de Masisi, qui s'inquiétait un peu, qui s'est préoccupée surtout de la sécurité sur la route de Masisi. Pourquoi est-ce que la brigade d'intervention qui mène des patrouilles ne va pas vers l'axe de Masisi? Je voudrais juste la rassurer pour lui dire que tous les axes sont dangereux au nord Kivu, donc, mais de ne pas trop s'impatienter. La brigade qui est en train de... Ma réponse répond d'ailleurs à la deuxième préoccupation de Kinshasa, dans la mesure où il voudrait avoir un rapport exhaustif des activités qui sont menées par la brigade d'intervention au nord Kivu. Donc, d'une pierre, je fais deux coups. Donc, pour dire que la brigade d'intervention, les éléments tanzaniens de la brigade d'intervention qui sont déjà déployés dans la grande majorité au Nord Kivu, mènent des patrouilles non seulement pour se familiariser avec leur environnement, mais mènent aussi conjointement des patrouilles avec la brigade du Nord Kivu pour permettre une symbiose parfaite des actions futures que ces unités vont avoir à mener conjointement. Mais je voudrais tout simplement dire à Madame ici à Goma que très bientôt, une fois que cette brigade sera déployée dans sa totalité, d'abord il y a une phase, comme on dit, d'induction, une phase de familiarisation qui sera bien sûr conduite, mais aussi une phase d'entraînement avant que ces gens-là ne soient réellement opérationnel. Donc, je pense qu'il faudra prendre son mal à patience, mais ceci, c'est juste pour témoigner un peu de l'engagement des troupes qui vont arriver, de l'engagement de toutes les troupes des Nations Unies pour permettre de sécuriser aussi bien Goma que ses environs immédiats.
Il y a une question concernant la situation sur le lac Albert. Est-ce que vous avez des informations concernant ce qui se passe sur le lac, puisqu'il semblerait que des informations circulent qu'il y a des morts?
Ça, si ça ne dérange pas le collègue de Kinshasa, s'il peut reformuler cette question, on essaiera d'y répondre.
La question, c'est qu'il y a des morts qui sont rapportés sur le lac Albert. Est-ce que vous avez des informations?
Non, je suis au regret de dire que je n'ai aucune information là-dessus.
Ok, nous revenons à la question de Sango Malamu concernant pourquoi maintenant la nomination de M. Kobler. Je ne saurais le dire, M. Kobler est le représentant spécial du secrétaire général, donc seul le secrétaire général décide de la durée du mandat de ses représentants. En règle générale, nous allons remarquer que depuis que cette mission est en place, les différents représentants du secrétaire général restent en général entre 2 ans et demi et 3 ans. On peut mettre ça... que c'est la durée moyenne des représentants ici en RDC. Maintenant, pourquoi maintenant, je ne saurais le dire. Encore une fois, ça, c'est de la discrétion du représentant spécial. Est-ce qu'il a une mission spécifique? Je pense que quand il sera sur place, vous pourrez lui poser cette question. C'est à lui de vous répondre. Moi, je ne sais pas. La déclaration du président tanzanien demandant au Rwanda de négocier avec le FDLR et à l'Ouganda de négocier avec l'ADF Nalu. Qu'est-ce que j'en pense? Il ne me revient pas de commenter les déclarations des chefs d'État. Voilà ce que j'en pense. Nous allons passer sur la gauche. Première question. À droite, s'il vous plaît. Première question.
Oui, M. Alain Waikani pour la RTLC. Je vais peut-être reformuler la question à M. le colonel Félix Bas sur la situation qui se passe en Ituri. Il y a l'axe qui se situe entre Bogoro et Kasenyi. Il y a les sécurités, les deux morts rapportés, c'était plutôt entre Bogoro et Kasenyi. Vous avez les troupes positionnées à Bogoro qui patrouillent souvent sur la route Kasenyi-Bogoro. Est-ce que c'est Cobra Matata ou bien il y a d'autres milices maintenant qui sont constatées sur cet axe-là, qui sont des SME, peut-être les sécurités? On aimerait peut-être avoir plus de précisions, monsieur le colonel. Merci.
Ok, mon colonel, vous pouvez répondre directement à cette question?
Oui, je peux répondre directement à cette question parce qu'effectivement, nous avons observé un redéploiement des troupes du FRPI de Cobra Matata vers Bogoro et vers Aveba et même un peu Bukiringi. Mais il a posé une question aussi qui est très importante. Est-ce qu'il y a la présence d'autres groupes armés dans cette zone? Oui, un peu au nord vers Ariwara, il y a une présence de 3 nouveaux groupes armés qui a été signalée pas très longtemps. Maintenant, est-ce que ce sont les éléments de Cobra Matata qui ont commis ces crimes dont il fait allusion? Eh bien, ça reste à déterminer. Je ne saurais être affirmatif là-dessus. Mais toujours est-il que Cobra Matata est déployé dans cette zone-là. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que depuis 2 jours, la MONUSCO s'active à lancer une opération dans cette zone-là pour prendre en compte cette nouvelle sorte de menace sécuritaire que nous observons depuis un certain temps. Mais je ne saurais confirmer que c'est Cobra Matata, mais je pense que puisque ça se passe dans sa zone de responsabilité, il doit être mêlé un peu à tout ça, parce que nous avons remarqué aussi que le commandement de toutes les troupes, de tous ces miliciens, commençait un peu à échapper à Cobra Matata depuis que la dynamique des pourparlers a été provisoirement suspendue. Les pourparlers entre Cobra Matata et l'armée congolaise ont été provisoirement suspendus. Mais je pense que si c'est sa zone de responsabilité, bien sûr, il est tenu pour responsable de ce qui se passe là-bas.
Deuxième question.
Merci, moi c'est Flavien Msens pour le compte des Planètes Télévisions.
Parle un peu plus fort s'il vous plaît.
Moi c'est Flavien Msens pour le compte des Planètes Télévisions. J'ai une petite question sur le plan humanitaire. Sur le plan humanitaire, le HCR vient déterminer l'identification des réfugiés centrafricains à l'Équateur. Moi j'aimerais savoir combien le HCR a identifié comme le réfugié politique. Entre autres, le famille de l'ex-président, vous disiez, il était ici à Kinshasa, vous avez identifié combien? Ça c'est un. Deuxième préoccupation, c'est sur le plan militaire. Monsieur le porte-parole militaire, est-ce que vous pouvez nous donner les deux différents rôles qui vont jouer les commandants de la force de la MONUSCO comparativement aux commandants de la brigade d'intervention avant et pendant l'opération? Merci.
Ocha?
Alors, concernant le nombre de réfugiés centrafricains, je n'ai pas les détails spécifiques en termes de répartition, réfugiés politiques ou autres. Les chiffres que nous avons reçus du HCR, malheureusement, ils ne sont pas dans la salle pour peut-être adresser la question. Les chiffres reçus sont de 30 500, dont 24 000 en Équateur et 6 500 en province orientale. Mais pas de, j'ai pas là avec moi une répartition dans cette catégorie dont vous parlez. Je ne sais pas si le HCR en fait, mais On peut leur poser la question.
Mon colonel?
Donc pour répondre à cette question, je voudrais d'abord lever l'équivoque. Aucune confusion n'est permise entre les deux rôles, parce qu'ils parlent de deux rôles. Il n'y a pas deux rôles. Il y a un commandant de la force, et ce commandant de la force a sous ses ordres différentes composantes militaires, notamment la brigade de l'Ouest, la brigade de l'Ituri, la brigade du Nord Kivu, la brigade du Sud Kivu, mais aussi deux secteurs, le secteur de Katanga et le secteur 2 qui est la zone de Kisangani. Donc, tous ces commandants de brigade et de secteurs sont sous les ordres du commandant de la force de la MONUSCO qui définit les tâches qui leur sont assignées et qui veille à l'exécution et à la mise en place de tous les moyens logistiques leur permettant de remplir la mission qui va leur confier. Donc, il n'y a aucun amalgame là-dessus, il y a une seule force, il y a un seul commandant de la force. Le commandant de la brigade d'intervention est sous les ordres du commandant de la force de la MONUSCO au même titre que tous les autres commandants de formation déployés dans toute la RDC.
Prenons une troisième question. Oui.
Merci, c'est Simon Kinsangala pour le compte du journal Demain le Congo. Monsieur le porte-parole, le M23 a repris Kampala. Bertrand, d'ici moi...
A repris Kampala.
A repris les négociations. Ah, okay. Alors, ma question de savoir, il y a Bertrand, d'ici moi, qui a déclaré que cette reprise dédouane son mouvement, c'est-à-dire que le M23 n'est pas concerné dans l'offensive de la brigade internationale. Ma question de savoir, cette déclaration est à banaliser ou non? Merci.
Si ça est à banaliser, vous dites?
Cette déclaration, mm-hmm, est-elle à banaliser, oui ou non? Merci.
Bon, je ne sais pas si cette déclaration est à banaliser. Je vous renvoie tout simplement à la résolution 2098 qui donne une liste non exhaustive des groupes armés que la brigade d'intervention doit neutraliser. Et je pense que le M23 fait partie de ces groupes. Nous avons pris trois questions ici. Nous allons prendre deux questions encore à Goma.
Oui. D'abord là, vas-y.
C'est Patient Ndolé du journal Observateur.
Je voudrais savoir, premièrement, comme ces deux questions, colonel, vous avez dit... vous avez dit qu'il est tenté d'être organisé des patrouilles, des actions fictives, des patrouilles entre les casques bleus de la MONUSCO et les éléments de la brigade d'intervention sous la bannière des Nations Unies, en vue de, en prélude des actions futures. Je voudrais savoir si ces actions futures, dans ces actions futures, est incluses ou sont incluses les éventuelles actions militaires qui sont la principale mission de la brigade d'intervention qui consiste à barrer la route et à attaquer ou à anéantir les forces négatives, notamment l'M23 ici au Nord Kivu.
Oui, moi c'est John Kanyunyu, je suis le correspondant de la Dochevele. Mon colonel, il y a des patrouilles à Goma de la part de troupes tanzaniennes. Et la plupart des cas, c'est dans les grandes artères. Et pourtant, il y a l'insécurité dans des quartiers. Pourquoi ils ne rentrent pas aussi dans les quartiers? Et aussi, à quand le tour des Rutshuru et Kiwanja et Masisi pour que ces troupes tanzaniennes aussi se familiarisent de ces coins aussi? Merci.
Ok, mon colonel, on peut avoir une réponse rapide parce qu'on a aussi deux questions ici à Kinshasa.
Oui, je commence par la deuxième intervention qui a trait un peu à l'itinéraire de nos patrouilles. Je ne sais pas si vous suivez nos patrouilles tous les soirs ou tous les jours, mais je ne crois pas que ce sont des gens qui sont exclusivement focalisés sur les grandes artères de la ville, parce que c'est des gens qui patrouillent aussi vers Sake, ne l'oubliez pas. Et donc, c'est pour vous dire que je comprends un peu tout cet empressement de la brigade d'intervention, les gens ont envie de la voir à l'œuvre, mais je vous dis tout simplement qu'il faudra donner du temps au temps, et puis vous verrez que cette brigade d'intervention est censée être déployée partout dans le Nord Kivu dans un premier temps, pour prendre en compte la menace sécuritaire qui est répandue par tous ces groupes armés, et comme vous le savez, que les populations civiles souffrent de leurs activités quotidiennes. Maintenant, pour prendre la deuxième question de monsieur un peu plus loin, les patrouilles qui sont menées par les troupes tanzaniennes, d'abord, il ne faut pas oublier que les troupes tanzaniennes ne sont pas la composante exclusive de la brigade d'intervention. Et il faut aussi corriger une chose, c'est que la brigade d'intervention est un outil additionnel mis à la disposition de la force de la MONUSCO, qui est intégrée et qui va travailler dans un schéma global, que le commandant de la force va définir. Donc ces patrouilles, ce n'est pas en prélude. Ces patrouilles sont menées pour sécuriser Goma. Ces patrouilles tanzaniennes, des troupes tanzaniennes, parce que c'est les premières troupes à avoir été déployées dans la presque totalité de leurs effectifs, ces troupes tanzaniennes ne le font pas en prélude. Participent à la sécurisation de Goma, participent aussi à tout l'environnement de Sake et tout ça, cet axe-là. Mais très bientôt, vous les verrez à l'œuvre, une fois que tous les équipements seront là, une fois aussi que toutes les modalités d'intégration seront conclues, cette brigade et toute la force de la MONUSCO avec elle prendra sérieusement en compte la menace sécuritaire dans la province du Nord Kivu.
Merci. Nous passons, revenons sur la gauche. Une question ici, à l'ACP.
Thierry Maï de l'Agence congolaise de presse. Il y a plus de 430 jours que le M23 occupe une partie de Rutshuru, je crois que c'est un quart. Comment se passe la cohabitation, si je peux m'exprimer ainsi, entre ces rebelles et les postes de la MONUSCO qui sont à Rutshuru, à Kiwanja et ailleurs? Comment se passe la cohabitation?
Je pense qu'on a répondu au moins 10 fois à cette question là dans cette salle. Mon colonel, vous voulez prendre cette question?
Oui, je la prends tout de suite. Et pour dire à mon ami de Kinshasa, qui n'a jamais eu de cohabitation, et heureusement d'ailleurs que nous avons encore la présence des troupes de la MONUSCO dans les territoires occupés par le M23, n'oubliez pas que le M23 aussi a occupé Goma, bien que ça constitue un traumatisme psychologique pour tout le monde. Mais heureusement encore que la MONUSCO était à Goma pour prévenir justement certaines exactions ou prévenir certaines violations des droits humains que le M23 aurait été tenté de commettre. Donc notre présence dans les territoires contrôlés par le M23 traduit justement notre engagement auprès des populations civiles. C'est pas parce que le M23 est dans le Rutshuru que nous allons quitter le Rutshuru. Nous ne cohabitons pas avec le M23, nous ne négocions pas avec le M23, nous imposons au M23 partout où il est de respecter les règles du jeu. Ça veut dire tout simplement que nous ne leur permettrons pas de s'en prendre aux populations civiles où est-ce qu'elles se trouvent, partout où elles se trouvent, que ce soit dans le Rutshuru, que ce soit à Goma ou que ce soit ailleurs. Donc il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de relation particulière, bien au contraire.
Merci. Une deuxième question.
Merci pour le micro. C'est Saint-Germain-des-Prés. Pour le double compte du drapeau blanc et de la voix du président congolais. Je pose ma question au lieutenant-colonel Cosper Bass. La toute première mission des Nations Unies eut lieu au Moyen-Orient en 1947 sous l'appellation Mission des Nations Unies pour la surveillance de la trêve. A-t-on appris de la bouche d'Abdallah Wafi lors de son discours célébratif de la dernière journée mondiale des casques bleus. 66 ans plus tard, la revoici en RDC sous le label de la MONUSCO, qui jusqu'ici se trouve au niveau du processus de la stabilisation de la paix. Eu égard à ce qui précède, la question de savoir, avec l'arrivée de la fin, c'est-à-dire de la force internationale neutre, pouvons-nous espérer à son imposition effective de la trêve et immédiatement après à la surveillance de celle-ci. J'ai parlé.
Mon colonel, la question vous est adressée.
Oui, je sais. Bon. Je sais que c'est laborieux, mais je vais tenter d'y répondre. Si je comprends bien, d'abord il faudra corriger une chose, ce n'est pas la force internationale neutre, c'est la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Ça c'est une première précision. La deuxième précision, c'est que la résolution 2098 nous accorde, ou en tout cas nous donne l'autorité nécessaire pour traquer, désarmer et neutraliser les groupes armés. Maintenant, ceci entre dans un schéma global, bien sûr, une approche beaucoup plus holistique de stabilisation de la RDC, bien sûr, en mettant à contribution toutes les autres initiatives, qu'elles soient politiques ou diplomatiques, mais toujours est-il qu'en ce qui nous concerne, ce n'est pas une question de trêve, c'est une question d'imposition aujourd'hui de la paix, parce que c'est une nouvelle approche que le département de maintien de la paix a appris. Cette démarche, elle est assez particulière et assez singulière. Donc cette brigade vient pour concourir, contribuer, à l'instar des autres unités de la force qui sont déjà déployées ici, elle vient apporter sa contribution pour réduire un peu toutes les activités négatives que les groupes armés font subir aux populations civiles.
Merci. Nous passons sur la droite. Je crois que
Merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte de Special Report. Je voudrais poser ma question au colonel Bass. Je voudrais avoir la précision de territoire occupé par le M23. Combien de territoires exactement? Merci.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Quels sont les territoires occupés par le M23?
Ben, je pense que le M23 est cantonné dans le territoire de Rutshuru, depuis un certain temps un peu dans le territoire de Nyiragongo, mais ça se limite là. Le M23 n'a pas une expansion illimitée, parce que comme vous le savez, au nord du Rutshuru, vous avez d'autres groupes armés qui écument un peu le nord du Rutshuru, notamment Cheitani. Vous allez un peu plus au nord, vous avez Hilaire vers le Béni, Oïcha et tout ça. Mais le M23 est cantonné dans les territoires de Rutshuru.
Ok, merci beaucoup mon colonel, merci à nos collègues de Goma, merci à nos auditeurs qui nous ont suivis sur les différentes stations de Radio Okapi ou sur Internet. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Rendez-vous mercredi prochain.
Parlons santé à présent. Au Kasaï-Oriental, plus de 40 cas de fièvre jaune, dont 15.